Bonjour. Comme je vous l'avais annoncé la fois dernière, c'est la suite de la prédication d'il y a 15 jours. Je vais prier. Seigneur, merci d'avoir parlé. Merci Seigneur, parce que tu veux faire de nous des êtres vivants pour toi. Seigneur, effectivement que nous puissions t'accorder un culte en esprit et en vérité. Et que la crainte soit bannie, Seigneur. Je te loue pour qui tu es, Seigneur, et pour ta capacité à parler à nos cœurs de façon individuelle. Je prie, Seigneur, que tu le fasses encore et que nous puissions être transformés par ta parole ce matin. Amen. Donc, je vais faire un résumé de cette première partie. Pour ceux qui n'étaient pas là, et puis pour faire le lien avec la suite. Donc la dernière fois, nous avions établi que la faute, le péché d'Adam et Ève ne les avait pas rendus irréligieux, mais que la séduction satanique, en même temps, les avait pénalisés de deux manières. D'abord, l'acte de désobéissance lui-même, et ensuite, on va dire l'acte qui a suivi après, qui était le militantisme au péché. C'est-à-dire qu'une fois que la chose était faite, ils ne sont plus devenus seulement des hommes et des femmes qui ont péché une fois, mais ils sont devenus des militants du péché, c'est-à-dire actifs dans ce rôle de pécheur, parce qu'ils ont été séduits par le système que Satan a mis en place. Ce système qui a conduit l'homme à dire oui au péché et qui, peut-être certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler du système AIDA, attention, intérêt, désir, acte, qui est un système que Satan a utilisé. Vous savez que les théologiens libéraux, de protestants notamment, ne croient pas dans le péché originel. Ils disent que c'est une fable, comme d'ailleurs les trois quarts de la Bible. Pour eux, ça n'existe pas, ça n'a pas vraiment existé. Et c'est assez curieux parce que ce sont en général de grands intellectuels, mais ils ont très peu de sens pratique. Et par contre, n'importe quel commercial sait que le péché originel a existé. Parce qu'un commercial, il utilise tous les jours la technique satanique pour faire vendre. Et on apprend, vous tapez AIDA sur Internet, technique marketing, et vous aurez le développement de cela. Capter l'attention. Dieu a-t-il réellement dit ? Montrez l'intérêt, vous serez comme des dieux. En montrant l'intérêt, vous créez le désir de l'obtenir. Et le désir étant là, il suffit d'agir. Et voilà comment, jour après jour, les commerciaux mettent en pratique cette technique qui date, qui remonte au péché originel. Donc les commerciaux le savent. Mais les gens intelligents, les théologiens, disent non, ça n'existe pas. Et c'est assez pathétique d'ailleurs de voir que finalement ils sont à la solde du malin lui-même lorsqu'ils annoncent et lorsqu'ils disent ce à quoi ils croient, ou plutôt ce à quoi ils ne croient pas. Satan savait que s'il touchait au but avec Adam et Ève, il posséderait avec ces deux personnes les meilleurs représentants du péché sur la terre. Parce que là aussi, un client qui est convaincu, c'est le meilleur vendeur. Et Satan a convaincu Adam et Ève Et une fois qu'ils étaient convaincus, ils ont été des militants du péché. Ce n'était pas possible de faire autrement. Nous avons vu ensuite, au travers de l'histoire, donc de Caïn et Abel, que le meurtre de Caïn sur Abel était la première mention d'un grand principe biblique qui est que le religieux cherche toujours à supprimer le spirituel. Plus loin, nous avions évoqué aussi la nécessité du contraste donc entre le religieux et le spirituel. Et donc ce contraste, nous avions vu à travers de Jean 8, lorsque Jésus parlait aux Juifs qui l'interrogeaient et qui en même temps voulaient le faire mourir. Et nous avons aussi vu cela au travers des versets dans lesquels nous allons aller dans Corinthiens, où l'apôtre Paul donc s'adressait dans 1 Corinthiens, s'adressait à ces hommes qui créaient des divisions dans l'Église à cause de doctrines partisanes et qui eux-mêmes avaient oublié le message de la croix, qui étaient devenus orgueilleux, et c'est pour cela qu'il y avait chez eux des divisions. Ils avaient préféré la sagesse humaine à la sagesse divine, et c'est ce qui causait les grands problèmes qu'ils rencontraient. Et on avait donc terminé en évoquant les deux sagesses qui cohabitent sur la terre, la sagesse spirituelle et la sagesse humaine. Donc la première, une sagesse humaine qui sert les intérêts de Satan, la sagesse de l'être religieux qui possède une sorte de filiation charnelle avec les choses spirituelles. Nous avions vu que Caïn n'était pas irreligieux. Il avait voulu rendre, honorer Dieu avec son autel et avec ses fruits, mais en même temps, il n'avait pas été accepté par Dieu. Il y a donc une sorte de filiation charnelle avec les choses spirituelles, sans pour autant vivre dans la réalité de la foi. Et ensuite, une sagesse de l'être spirituel, celui qui est l'enfant légitime de Dieu et qui se nourrit spirituellement par la révélation. Voilà. Alors, bon, on ne va pas avoir le temps de le faire, mais pour bien faire, j'aurais aimé définir religieux et révélation, mais franchement, pour le temps qu'on a, ce ne sera pas possible, mais je le ferai peut-être une fois prochaine. Et donc, comme je l'avais annoncé, on va lire la suite de 1 Corinthiens, et notamment s'arrêter sur les versets 14 et 15. Donc là, je vais vous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Verset 14. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Naturel, en grec, c'est psychique, l'homme. L'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et comme je l'ai déjà dit, il n'est pas nécessairement opposé à l'idée de Dieu. Il peut même en faire sa vie. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de dire que c'est quelqu'un qui ne va pas à l'église, qui ne s'intéresse pas à Dieu, qui n'a pas d'intérêt pour les choses de Dieu. Il ne s'agit pas du tout de cela. Cependant, il n'est pas approuvé par Dieu parce qu'il n'est pas habité par le Saint-Esprit. Non seulement cela, mais en plus, il ne désire même pas réellement les choses de Dieu. Et c'est là où les choses sont curieuses. Parce que de telles personnes peuvent être dans l'Église, elles peuvent être ici même, elles peuvent être ailleurs, en train de faire les choses que les hommes font lorsqu'ils adorent Dieu. Et ils peuvent le faire même en toute sincérité. Mais quelque part, le message qu'ils entendent ne pénètre pas dans le fond du cœur pour opérer une transformation telle que la parole de Dieu l'accomplit chez les hommes et les femmes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Alors, ça nous renvoie à 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Je l'avais lu la fois dernière. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alors, c'est pas ceux qui périssent physiquement. C'est pas. Alors, vous me direz, on est tous en train de mourir, oui. Mais c'est pas ceux qui périssent physiquement, qui sont en train de perdre la vie physique. Mais c'est pour ceux donc qui vivent une pseudo-réalité chrétienne. Et ça n'a rien à voir non plus avec la prédication. Il est dit, la prédication de la croix est une folie. C'est pas la façon dont les choses sont prêchées qui pose un problème. C'est le thème, c'est le sujet, c'est l'esprit qui prêche qui pose un problème à celui qui périt. Parce que toutes les religions chrétiennes, le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxe, l'évangélique, le pentecôtiste, le baptiste et tout le reste, tout le monde a compris le message de la croix en tant que l'explication de texte. Tout le monde le sait. N'est-ce pas? C'est étranger à personne, même dans une église catholique, lorsque on est resté suffisamment longtemps et qu'on s'est intéressé aux choses, on sait quelle est l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, surtout aujourd'hui, de plus en plus. Donc il ne s'agit pas d'un problème d'intelligence ou d'un problème intellectuel. Quels sont ceux alors qui ne comprennent pas vraiment? C'est ceux qui, dans ces assemblées même, dans nos assemblées même, ne font pas de cette prédication de la croix un fondement pour leur vie. C'est ceux qui, entendant la vérité, l'acceptent comme une vérité éventuellement, mais n'en font pas un fondement pour leur vie. Parce que, par nature, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme ne perçoit pas le message de la croix comme quelque chose de de fondamental pour sa propre vie. Et en réalité, si on a l'occasion de discuter avec ces personnes, on s'aperçoit que même ils dénigrent ce message. Ils considèrent que cela abêtit les gens, que ça les rend dépendants, n'est-ce pas, de dogmes et de doctrines. Donc, l'homme naturel est bloqué complètement dans sa réflexion spirituelle, pas son intelligence réelle. Je pourrais inverser, parce que l'intelligence réelle, finalement, c'est l'intelligence spirituelle. Mais bon. Alors, il continue, l'apôtre, en disant, donc au verset 14, l'homme naturel non seulement ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, mais en plus, il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut les connaître. À nouveau, ce n'est pas parce qu'il a des troubles de l'apprentissage qu'il ne peut pas les connaître. Moi, je travaille avec des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage. Et effectivement, parfois, c'est difficile pour eux de comprendre les choses que la plupart des gens comprennent. Mais il ne s'agit pas de ça. Ce ne sont pas des gens qui ont des troubles de l'apprentissage qui ne comprennent pas. Encore, je le redis, souvent, ce sont des intellectuels de très haut niveau. Ce n'est pas non plus qu'il y a une faiblesse mentale. C'est simplement qu'il n'y a pas de liberté à l'intérieur. Il n'y a pas, finalement, de place pour Dieu à l'intérieur. Parce qu'il y a quelque chose qui a pris la place. Et ce quelque chose, c'est moi. C'est ce grand moi. C'est l'orgueil de l'homme qui a pris toute la place. Et il veut bien entendre le message de l'Évangile comme étant quelque chose d'extérieur. Mais il n'est pas prêt à entendre le message de l'Évangile et de la croix comme étant une réalité intérieure. Parce qu'il n'y a pas la place. Il s'est fabriqué sa propre religion. Il perçoit Dieu comme une forme, un construit cognitif, c'est-à-dire une construction mentale, voilà, de quelque chose, un veau d'or, quoi, si on veut, quelque chose qu'on imagine et qu'on se façonne. Donc on peut faire des images avec de l'argile ou avec du métal, mais on peut aussi faire des images avec sa tête, dans sa tête. Et ça fait pareil. Devant Dieu, c'est pareil. N'est-ce pas? Ils ont étudié les philosophes. Et ça a contribué à l'image. Et ils ont imaginé un idéal de paix, un idéal de révélation. Ils disent, ah, la révélation, oui, c'est partout la révélation. Chez les chrétiens, oui, bien sûr. En islam, mais bien sûr. Chez les pentecôtistes, sans aucun doute. Chez les témoins de Jéhovah, mais là aussi. Dans le bouddhisme, mais quand même, voyons. Vous avez aujourd'hui beaucoup de théologiens qui en sont arrivés là. Dans Jean 8, si on peut y tourner. Donc c'est ce passage où Jésus est aux prises avec des Juifs qui ont l'intention de faire mourir. Il dit au chapitre 8, verset 40, « Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. » Le religieux veut toujours supprimer le spirituel. C'est un grand principe. Jésus, dans ce passage, au verset 43, explique la même chose que l'apôtre Paul. Il prend soin d'expliquer aux Juifs, donc qui vont le faire mourir, et qui ne peuvent pas comprendre ces paroles. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Mais il ne leur pose pas la question pour qu'ils répondent. Il leur pose la question à leur place. Il dit, je suis en train de vous parler, mais vous ne comprenez rien de mon discours. Et ça arrive dans les églises. J'ai passé mon enfance à rien comprendre dans les églises. J'entendais un discours et je ne comprenais rien. Et là, c'est pareil. Jésus leur parle, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi vous ne comprenez pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pourquoi? Parce que vous avez pour père le diable! Et vous voulez accomplir le désir de votre Père. Alors si là vous avez un problème avec ça, bien vous avez juste à dire que le diable n'existe pas. Comme ça votre problème est réglé. C'est ça que disent les théologiens. N'est-ce pas? On culpabilise les gens avec ça. Si on veut avoir des chrétiens non déculpabilisés, il faut enlever cette théorie. Alors tout le monde sera tranquille, n'est-ce pas? Peut-être pas. Il a été meurtrier dès le commencement. Nous l'avons vu avec Caïn qui a tué Abel. Mais Jésus n'est pas en train de dire à ces gens « Jamais vous ne comprendrez mon langage. » Il n'est pas en train de les juger, de les condamner. Il dit « Là, maintenant, vous ne comprenez pas mon langage parce que votre père est le diable. Vous ne comprenez pas mon langage parce que vous n'accordez pas de crédit à la parole que je vous dis. C'est parce que, au lieu d'arrêter de discutailler avec moi et de me poser des questions pièges sans arrêt, parce que vous vous êtes déjà fabriqué votre théologie. C'est un pharisien dans l'essence, c'est ça. C'est un homme qui pose des questions spirituelles. Mais pas pour que vous lui donniez la réponse. Parce que la réponse, il se l'est déjà faite. Mais parce qu'il veut vous tester, vous éprouver. Parce qu'il veut vous piéger. Et si vous regardez comment les pharisiens ont agi, ils n'ont fait que ça. N'est-ce pas? À part quelques exceptions, comme Nicodème et d'autres. La plupart ont posé des questions à Jésus, non pas parce qu'ils voulaient apprendre quelque chose de lui. Mais surtout parce qu'il voulait le piéger et arrêter son ministère. C'est à ça qu'on reconnaît un pharisien. Et Jésus leur a dit, mais vous ne comprenez pas mon langage à cause de ce que vous avez dans votre cœur. C'est ça qu'il leur dit. Vous ne comprenez pas mon langage Parce que vous êtes rempli d'autre chose. Parce que vous ne venez pas à moi avec des vraies questions. Alors, vous ne comprenez pas mon langage. Par contre, vous comprenez les mensonges du diable. Et ça signifie énormément. Ça signifie que si demain quelqu'un vient vous donner une autre doctrine, eh bien elle va vous plaire. Quelqu'un vient vous parler différemment de moi, eh bien vous allez le suivre, parce que cela va ressembler exactement à ce que vous avez dans votre cœur, qui est du diable. Ça va ressembler au mensonge même du malin. Donc, pour l'homme et pour les femmes qui entendent le message de la croix, c'est une responsabilité morale pour eux que de s'abaisser. C'est une responsabilité personnelle que de s'humilier et de faire savoir à Jésus-Christ que oui, avec toute mon expérience, avec toute ma connaissance, avec toutes mes capacités intellectuelles, je m'aperçois que je ne sais rien. Je m'aperçois que je ne suis rien. Je m'aperçois que je ne peux rien. Et que je suis aveugle. Que le message, je veux le saisir, mais que je n'y arrive pas. C'est tout ce que Jésus attendait de la part des Juifs. Qu'ils arrêtent de discutailler et qu'ils croient en lui. C'est aussi ce que Paul attendait des Corinthiens. N'est-ce pas? Si on retourne dans 1 Corinthiens, vous vous rappelez que ils discutaillaient, ils se disputaient. On peut le relire. Il y a des disputes au milieu de vous. Chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul et moi d'Apollos et moi de Céphas et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié? Paul attendait des Corinthiens qu'ils arrêtent de se disputer, qu'ils laissent le Saint-Esprit travailler leur cœur, afin qu'ils soient libérés de leur orgueil. C'est l'orgueil qui crée les divisions. C'est l'orgueil qui crée les disputes. Non, mais moi, j'ai raison sur ce point-là. Ah non, moi, j'ai raison là. Vous n'avez pas raison, dit Paul. Vous n'avez pas raison parce que c'est votre orgueil qui vous fait parler. Alors, de toute façon, vous avez tort. Quel que soit le contenu de votre doctrine. Il voulait qu'ils arrêtent et qu'ils voient à nouveau la splendeur et l'efficacité de la croix et de Christ crucifié. Alors, à ce stade-là, quelle différence y a-t-il entre l'homme naturel, l'homme psychique et l'homme spirituel. Pour ça, il faut aller au verset 23 et 24 dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Les Juifs, je commence au 22, les Juifs, verset 22, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Voilà donc ce qui distingue les deux natures, ceux qui sont appelés. Et si on associe les versets que je viens de lire avec 2 Corinthiens 2, 14 et 16 qu'on a lu précédemment, eh bien on peut dire que la différence entre le naturel et le spirituel, entre ceux qui reçoivent les choses de l'esprit et ceux qui ne les reçoivent pas, c'est que celui qui est appelé est spirituel. L'autre qui n'est pas appelé est naturel. Et le naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alors j'entends déjà les gens me dire « Oh, mais alors moi je ne suis pas appelé, donc tout ça, ça ne me concerne pas. » Alors, pour répondre à cela, il faut descendre encore quelques versets dans le chapitre 1. Croyez-moi, l'apôtre Paul était extrêmement intelligent, ça c'est sûr. Et le Saint-Esprit a parlé à l'apôtre Paul de manière absolument incroyable. Si vous commencez à travailler les textes sérieusement, c'est un puits sans fond. C'est phénoménal parce que il dit des choses qui ont des références dans l'Ancien Testament, qu'il ne précise pas, mais on sent que tout cela est fondé sur une connaissance absolument incroyable des Écritures déjà, et que cela a été mis au jour par le Saint-Esprit. C'est vraiment merveilleux que le Seigneur ait fait ça. La parole de Dieu est merveilleuse. Au verset 27, donc je disais, certains me diront, mais moi je ne suis pas concerné alors, puisque je ne suis pas appelé. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Les choses folles, les choses faibles, les choses viles, celles qui ne sont point, qui sont insignifiantes. Jésus a dit, moi je suis venu, c'est pas pour les bien portants. Je suis pas venu pour ceux qui se pensent en bonne santé. N'est-ce pas? Il a dit ça. Mais je suis venu pour ceux qui savent qu'ils sont malades. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu n'appelle pas certains au détriment des autres. Mais ça signifie que pour certains, c'est plus facile d'entendre la voix de Dieu, comme on l'a déjà dit avant. C'est plus facile d'entendre qu'on est appelé. Et c'est plus facile d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous n'avez qu'à prendre la parabole du jeune homme riche. C'est la conclusion. C'est que cet homme avait toute la bonne démarche théorique. Et Jésus lui a dit, tu es pas loin. Et il est dit que Jésus l'aima. Et il est dit que Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. C'est ça qu'il est dit de ce jeune homme riche. Mais après, il est aussi dit que cet homme est parti, triste, malheureux. Et ensuite, il est dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vous comprenez? Jésus voulait sauver ce jeune homme riche. n'est pas parce qu'il était riche qu'il ne voulait pas le sauver. Mais parce qu'il était riche, il n'a pas entendu la parole de Dieu jusqu'au bout. Il n'a pas été capable de la capter. Parce que cette dernière planche de salut qu'il possédait, peut-être son statut social qui allait avec la richesse, l'importance qu'il avait dans la cité. N'est-ce pas, si je donne mes richesses, mais alors ma campagne électorale va tomber à l'eau. Je ne serai jamais élu maire. Peut-être s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais laissé ma richesse. Si j'avais pas eu de projet, j'aurais laissé les choses. Dieu n'appelle pas certains au détriment des autres. Mais il se trouve que les choses folles, les faibles, ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose sur quoi s'appuyer, eh bien, entendent beaucoup mieux, beaucoup plus distinctement l'appel que Dieu leur lance presque quotidiennement. Il y a une autre parabole, celle des convives. Lorsque il y a là un homme riche qui veut inviter du monde, ses amis, à venir. Venez, j'ai un festin pour vous. Et ils trouvent tous des excuses. Ils ne veulent pas venir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé un serviteur pour aller chercher les choses viles. Pour aller chercher les clochards. Pour aller chercher ceux qui n'avaient rien. Et ceux-là ne se sont pas fait prier. Ils sont venus en grand nombre. Ils ont entendu l'appel. Les autres aussi l'avaient entendu. Mais il y avait quelque chose là à l'intérieur qui les empêchait de venir. Alors, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Par rapport à ce que je disais avant, il y a une chose que pour laquelle je remercie le Seigneur, c'est que il y a des riches qui, heureusement, ont entendu la parole de Dieu et qui ont répondu. Et lorsque je préparais la prédication, j'ai essayé de réfléchir à tous les gens que le Seigneur m'a permis de côtoyer depuis que j'ai donner ma vie à Christ. Et je me suis aperçu qu'il y avait là parmi eux potentiellement des têtes, potentiellement des gens capables de faire de grandes choses dans le monde. Et ils ont soumis ces capacités et le Seigneur a pu travailler au travers d'eux et accomplir de grandes œuvres. On peut penser à Norman Mitten. En lisant Oswald Chambers, on a aussi cette impression d'une très très grande qualité. Il y a bien entendu Keith avait de très très grandes qualités et c'est donner sa vie juste pour le Seigneur, alors que, voilà, en musique peut-être ou dans d'autres domaines, peut-être la famille saura mieux que moi, mais on sent ses capacités. Quand on va en Angleterre à Aurora, on a autour de nous des gens qui s'ils avaient voulu faire autre chose, auraient réussi de grandes choses dans le monde. Mais non. Et ça, c'est le témoignage qui est... C'est un témoignage très puissant pour des jeunes chrétiens de voir qu'ils ont abandonné consciemment, mais pas par orgueil, leur vie. Ils ont abandonné consciemment leur vie par amour pour celui qui les avait sauvés. Voilà. Mais je peux aussi mettre Monsieur Cradock dans ce lot, je peux mettre Paul Cradock, je peux mettre tous les gens, peut-être beaucoup d'entre vous ici. Mais c'est merveilleux de voir d'un côté des capacités intellectuelles, des capacités de tous les jours, et en même temps de voir que cela, ça a été mis de côté, au moins partiellement, pour que Dieu soit élevé. Ça, ce sont de grands exemples. Versets 15 et 16, donc, décrivent ce que fait une personne qui, appelée, devient spirituelle. L'homme spirituel est changé par l'Esprit de Dieu. Étant changé par l'Esprit de Dieu, il a une capacité à juger. Mais là, j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur cela, parce que quand on parle de jugement, on pense que, ah oui, alors, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on pense qu'alors on peut se permettre peut-être de dire aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors je ne crois pas du tout, et le grec, si on regarde bien, ne montre pas cela de cette façon, en tout cas pas de façon aussi binaire que je viens de le montrer, mais il s'agit d'un jugement sur les choses spirituelles qui sont dites dans l'Église. C'est de cela dont il s'agit. Et là, dans le contexte de l'apôtre Paul et de l'Église des Corinthiens, il s'agit du jugement que les Corinthiens devaient porter sur l'enseignement qui était donné. Et si on lit le verset 13, hein, juste au-dessus, et je commence à 12, l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données, donc que nous soyons en mesure de juger de ces choses-là, par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. C'est-à-dire cette capacité spirituelle de juger des choses qui sont dites dans l'Église. Et l'apôtre Paul, quand il parle des dons dans l'Église, et notamment des langues, il dit la même chose un peu plus loin, c'est dans 1 Corinthiens 14. Il dit... Le message dans l'Église doit être comme une symphonie de choses. Ça ne doit pas être juste le parler en langue, n'est-ce pas? Il y a celui qui prophétise, il y a celui qui parle en langue. Mais mes frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. Ce sont ces choses-là que l'homme spirituel est en mesure de juger. Mais il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire que l'homme naturel n'est pas, lui, capable d'exercer ce jugement spirituel sur le spirituel. L'homme naturel n'exerce qu'une condamnation. il ne peut que vouloir faire disparaître ce qu'il entend, ce qui est spirituel. Et donc, il n'approuve pas la foi, il n'approuve pas la façon de vivre, il considère ce qui est spirituel comme stupide, hors du temps, et ringard, et tout ce que vous voulez. Car, qui a connu la pensée du Seigneur? Voilà, seul l'homme spirituel a accès à la pensée de Dieu, et personne d'autre. Et ça, je ne sais pas si nous nous en rendons compte. Il n'y a personne d'autre que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui comprennent réellement l'Esprit de Dieu. Et je crois, frères et sœurs, que ça devrait nous inciter à prendre plus au sérieux non seulement la parole de Dieu dans son Écriture, mais aussi toutes les exhortations qui nous sont données au quotidien, soit dans l'Église, soit des choses ou les discussions que nous avons les uns avec les autres, ou que le Seigneur nous met à cœur par les moyens qu'il a choisis de nous les mettre à cœur. Alors, dans une assemblée comme celle-ci, les deux natures sont présentes. C'est inévitable. Dans l'assemblée de toutes les églises professantes, les deux sagesses sont présentes. On ne peut pas imaginer qu'il en soit autrement. Et si ce message vous a concerné en tant que croyant spirituel, alors il faut continuer dans la voie que le Seigneur vous a montrée. Il faut peut-être intensifier votre recherche de Dieu pour mieux le connaître encore et pour que votre jugement sur les choses spirituelles soit ancré plus profondément encore dans la foi en Christ, pour que lorsque les jours difficiles viennent, vous ayez des ressources spirituelles pour combattre. Il faut continuer comme cela. Pour ceux qui se sont sentis concernés parce que ils peuvent dire oui, j'ai une foi naturelle, j'ai une religion issue de je ne sais pas trop où, je suis assez d'accord en l'ensemble avec ce qu'on me dit, mais je ne vis pas dans mon cœur la réalité de ces choses. Alors, soit vous questionnez les choses de Dieu et vous discutaillez avec Christ, et dans ce cas, il va vous renvoyer aux paroles de Jean 8. Et il va vous confirmer que vous ne pouvez pas comprendre son langage. Il va aussi dire que bientôt vous allez le crucifier. Mais si vous entendez cette parole et que vous avez envie que les choses changent, alors Christ veut vous montrer que la vie sans lui n'a pas d'intérêt. Il veut vous prouver que l'Évangile est vrai et que vous avez besoin que Dieu, que le Dieu de gloire meure à votre place sur une croix. Il veut vous expliquer que la résistance à son appel, c'est de l'orgueil qui est mal placé. Rendez-vous compte. Jésus a appelé ce jeune homme riche. Jésus l'a aimé. Jésus lui a dit, viens, suis-moi. Et son orgueil a fait qu'il s'est coupé de ce salut merveilleux que Christ avait pour lui. Jésus veut que les hommes et les femmes arrêtent de vivre la foi chrétienne par leur propre force, mais qu'ils se confient réellement en lui, afin qu'il puisse les sauver. Voilà, je vais m'arrêter là. Seigneur notre Dieu, nous avons pris conscience que le malin a mis en œuvre un plan afin que ceux-mêmes, peut-être, qui professent te connaître, soient empêchés d'entrer dans la réalité de la foi. Et Seigneur, ce matin, nous voulons refuser cela. Et dans le nom de Jésus, nous confessons, Seigneur, que l'Esprit de Dieu est plus puissant que tout l'orgueil humain du monde. Et Seigneur, que tu es capable d'abattre des forteresses. Seigneur, tu es capable de faire que l'homme qui est aveugle puisse recouvrer la vue, si tant est qu'il accepte de croire ou de voir qu'il est aveugle. Tu es capable, Seigneur, de faire en sorte que ceux qui sont sourds puissent t'entendre ce matin, parce qu'ils savent maintenant qu'ils sont sourds. Tu es capable, Seigneur, d'ouvrir les cieux et de faire que l'Esprit de Dieu vienne et se répande dans le cœur de tous ceux qui s'ouvrent à toi, qui acceptent de reconnaître que malgré ce qui les a forgés et formés, ils ne sont rien devant toi. Seigneur, je prie pour que tu agisses et que tu convainques de péché, de justice et de jugement. Seigneur, tous ceux qui ont besoin de toi pour leur salut, ici dans cette salle, mais aussi ceux, Seigneur, qui sont autour, et que ton nom, Seigneur, puisse être glorifié sur la terre et dans les cieux. Dans le nom de Jésus. Amen.